Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alexandre Arcadie pour son nouveau film « 24 jours, la vérité sur l'affaire Halimi », réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui sortira le 30 avril prochain avec à l'affiche un casting prestigieux, Abou Bretman, Pascal Elbé, Jacques Gamblin, Eric Caravaca et Sylvie Testu notamment. Alexandre Arcadie, on connaît bien votre filmographie depuis le coup de Sirocco en 1979, Le Grand Pardon, L'Union Sacrée ou plus récemment Comme les cinq doigts de la main en 2010. Vous avez cette fois choisi un sujet particulièrement sensible, particulièrement douloureux, puisque vous retracez donc le calvaire qu'a subi Ilan Halimi, enlevé le 20 janvier 2006 par le gang des barbares. Vous retracez les 24 jours durant lesquels sa famille et la police vont essayer de le faire libérer. C'est un film extrêmement fort, éprouvant, dont on ne sort pas indemne. Vous avez choisi de montrer bien sûr l'enquête policière, mais en vous basant sur le livre coécrit par Émilie Fraîche et Ruth Halimi, la mère d'Ilan, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, qui est paru aux éditions du Seuil. Vous nous faites vivre ce drame au plus près de la famille. Alors faire un film sur un événement réel et contemporain, c'est une chose, mais le faire à partir du témoignage de la mère, cela vous oblige à un engagement, une responsabilité encore plus importante.
Évidemment. Moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, j'ai été très 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 heureux et très fier que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, après vision du film, nous ait apporté son soutien. Parce qu'au fond, ce film est né évidemment de l'adaptation du récit de Ruth Halimi, mais je crois qu'il faut remonter un peu plus loin. Vous savez, c'est une œuvre de cinéma avant tout, et c'est le cinéaste qui parle et c'est sa volonté de porter témoignage dont il est question aujourd'hui. Je veux dire, remonter plus loin, parce qu'il y a quelques années, le jeune séfarade que je suis a été amené à faire un voyage à Auschwitz pour accompagner un groupe de jeunes. Et comme on peut l'imaginer, on n'en sort pas indemne, vraiment, d'un voyage comme celui-là. Et quand on est au cœur même de l'édifice organisé par des hommes pour anéantir tout un peuple, on est pris par un tel sentiment qui vous amène à garder le silence, à vous recueillir, à penser à tous ceux qui ont perdu leur vie sur les chemins de ces camps de la mort. Et puis, dans ce voyage, quelqu'un a pris la parole et a fait un discours très simple, mais très, très, tellement fort. Il a dit, quand on est ici, on a envie effectivement de se taire, de garder le silence, de penser à ceux qui sont partis. Mais il ne faut pas. Il faut parler, et encore parler, et toujours raconter. Alors, je parle de cette expérience personnelle parce qu'au fond, il y a un lien avec la volonté de porter témoignage et de ne pas oublier Ilan Halimi. Et j'ai eu ce sentiment assez vite, lors de la manifestation qui nous a réunis à la République après l'annonce du décès d'Ilan. Nous étions beaucoup, mais pas assez. Parce que je me suis souvenu de ce million de Parisiens toutes confessions confondues, dans les rues à Paris, après le saccage du cimetière de Carpentras, et le président de la République en tête. Et à ce moment-là, je me suis dit, en 2006, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi la mobilisation n'est pas aussi importante que ça? Pourquoi seule la communauté, ou presque, est dans la rue? Et ce sentiment incroyable qu'on allait très vite oublier Ilan. La preuve en est, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais à Bordeaux et une émission de télévision m'a proposé de m'interviewer dans la rue, caméra à l'épaule. Et j'évoquais le fait que j'avais ce sentiment qu'on avait oublié Ilan. Et L'ayant pris au mot, puisque le journaliste ne me croyait pas, nous nous sommes arrêtés à une terrasse de café. Il faisait beau, il y avait du soleil, il y avait des jeunes, des moins jeunes qui étaient attablés. Et avec la caméra, j'ai interrogé les gens. J'avais dit, est-ce que, si je vous dis l'analimi, ça vous dit quelque chose? Et la plupart, j'allais dire presque tout le monde, ne savait pas de quoi je parlais, ne savait pas de qui je parlais. En revanche, quand j'évoquais Youssouf Fofana ou le gang des barbares, là, il y a une petite lueur qui s'éclairait en disant « Ah oui, oui, ça nous dit quelque chose, ah oui, c'est des... » Donc ça prouve deux choses. Un, qu'on fait souvent la part belle aux bourreaux et peu aux victimes. Et deux, c'est qu'une nouvelle chasse l'autre. Et on a, dans notre pays, pris cet événement comme un fait divers pour la plupart. Et c'est le combat de Ruth Halimi qui a poussé les autorités à reconnaître le caractère aggravant de l'antisémitisme dans cette affaire. Donc, au nom de toutes ces réflexions, quand est paru le livre de Ruth Halimi, j'ai immédiatement souhaité en faire une adaptation cinématographique parce que je pense que le cinéma est un vecteur populaire assez large qui permet non seulement l'émotion, mais qui permet aussi de transmettre parce qu'on parle, parce que contrairement à un livre qu'on lit seul, un film on le voit ensemble. Et le voyant ensemble, on peut transmettre, on peut parler. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai fait ce film. Je crois que c'est un film qui est un film juste, qui est un film, j'aime pas les mots importants, mais qui est un film qui va compter. Et c'est un film qui marque, non pas parce qu'on raconte le calvaire d'Ilan, puisque je l'évoque sans le montrer. Et ça, il faut que les auditeurs le savent, ceux qui écoutent cette émission, sachent que je n'ai pas voulu faire du voyeurisme. Je n'ai pas fait un film en me disant « je vais montrer les sévices infligés à Ilan ». Ce n'était pas nécessaire et c'était indigne de le faire, parce qu'il faut respecter sa mémoire, respecter son calvaire. Mais en revanche, j'étais derrière la famille et derrière l'enquête policière en permanence. Et je dis cela parce qu'il y a chez certains une appréhension. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure en présentation, on n'en sort pas indemne. C'est vrai qu'on n'en sort pas indemne, non pas parce qu'il y a du voyeurisme, mais parce que l'histoire est forte, parce que nous nous trouvons confrontés à regarder et assister pendant 24 jours à l'abomination la plus totale pour une famille ordinaire. Une famille française, de confession juive certes, mais une famille française qui se retrouve confrontée à ce qu'il y a le plus horrible, c'est-à-dire la capture et la torture d'un enfant. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai fait ce film et je suis très fier, encore une fois, d'avoir le soutien de la mémoire pour la Shoah.
Vous l'évoquiez à l'instant, Alexandre Arcadi, vous montrez l'enquête policière, vous montrez l'engagement 24 heures sur 24 des policiers qui sont joués par Jacques Gamblin et Sylvie Testu, notamment, mais aussi les nombreuses erreurs qui ont émaillé l'enquête. La plus grande étant, à votre avis, de ne pas avoir compris le caractère antisémite de cet enlèvement?
Je n'ai pas voulu faire un film à charge sur la police.
Ce n'est pas un film à charge, parce qu'en
l'occurrence, j'ai pas voulu, parce que ils se sont vraiment investis pendant 24 jours. Le Quai des Orfèvres a mis 400 fonctionnaires nuit et jour pour retrouver Ilan. Ils en avaient fait ils avaient une volonté vraiment de le retrouver vivant. Ils se sont trompés de cible, c'est évident. Ils ont cru avoir affaire à des malfrats avec une tête pensante, si je puis dire, à Abidjan et des bras armés en France. Ils n'ont pas voulu regarder les choses en face, c'est-à-dire quand il y avait des menaces antisémites propagées à la fois par Youssouf Fofana au téléphone, mais également par ses messages qu'il envoyait, comme la sourate du Coran. Ils n'ont pas voulu prendre en compte ces images et cette volonté de montrer le caractère vraiment antisémite de tout cela. Ils ont cru à une stratégie pour faire peur. Et ils ont, même quand on regarde le dernier message d'Ilan envoyé à sa maman, Et ça, c'est Bernard-Henri Lévy qui me le faisait remarquer. Et c'est vraiment, il y a une. J'avais pas perçu ça pendant le tournage. Ilan utilise quasiment les mêmes mots, la même phrasologie que Daniel Pearl, le journaliste américain qui a été décapité en Afghanistan, en Pakistan. Il cite son nom. Je suis Ilan Halimi, je suis juif. Je suis le fils de Ruth Halimi et de Didi Halimi. Cette litanie de la reconnaissance du nom, qui est très importante dans notre religion, je ne pense pas que ce sont les ravisseurs ou les barbares qui lui ont soufflé, parce qu'ils n'en étaient pas capables. Et on retrouve cette même façon de se présenter chez Daniel Pearl. Et ça, c'est très fort, très prenant de faire cette analogie. Et évidemment, les policiers n'ont pas voulu reconnaître pendant l'enquête, qu'ils avaient affaire à une bande de bracassés et à une bande de bracassés antisémites. On peut le leur reprocher. Ce qu'on peut reprocher, sûrement, c'est l'attitude du procureur de la République, c'est-à-dire de la justice de France, qui, après toutes les auditions de toute la bande, qui eux-mêmes disaient oui, on l'a kidnappé parce qu'il était juif. Bon, s'il est juif, il est riche. S'il est riche, et s'il n'est pas suffisamment riche, la communauté est solidaire. Ils n'ont pas voulu reconnaître le caractère antisémite. Il a fallu l'intervention forte du juge d'instruction et des politiques pour que cela enfin soit reconnu, et grâce aussi à vos interventions importantes de Ruth Halimi.
Alors, on apprend beaucoup de choses dans ce film, au-delà donc des erreurs de l'enquête. On voit le harcèlement dont a été victime la famille Dylan, notamment le père, puisqu'il était le principal interlocuteur de Fofana. Alors, on le savait, on peut le rappeler, 650 appels téléphoniques, des demandes de rançon astronomique, des insultes, des menaces qui dureront même après la mort d'Dylan. On le savait, mais le fait de le voir et dans les lieux réels, puisque vous avez essayé de tourner au maximum dans les lieux où ça s'était réellement passé, cela permet de prendre vraiment la mesure de cette violence. C'est là où le film prend tout son sens, je trouve.
C'est une retranscription exacte de ce qui s'est passé. Toutes les conversations téléphoniques de Youssouf Fofana ont été enregistrées, évidemment, et nous ont servi de modèle pour que le comédien qui interprète ce rôle puisse nous faire nous replonger dans ce climat abominable. 700 coups de téléphone, je ne sais pas si vous mesurez l'énormité, ce harcèlement absolu qu'a subi Didi Halimi, qui a été choisi par la police pour être l'interlocuteur. Un harcèlement moral, un harcèlement physique, tout ça nous amène à une espèce de dégoût absolu qui montre les dérives d'une certaine population en France, une dérive insupportable, parce que les amalgames sont faits très facilement, parce que tout d'un coup, avec l'aide des médias, si je puis dire, on ne dit plus juif, on dit sioniste, la banalisation de l'insulte antisémite, voilà. Tout ça fait qu'on est arrivé à un point de non-retour, et évidemment, les extravagances de ce prédicateur antisémite, ex-humoriste, y est pour beaucoup aussi, dans le sens où, je veux dire qu'il a fait beaucoup de mal sur certains jeunes, un petit peu désœuvrés et pas du tout préparés.
Il y a justement un moment très troublant dans le film, c'est quand la police vient arrêter les auteurs du crime dans la cité où était détenu Ilan Halimi. On voit tout d'abord le nombre de complices, je crois que 29 personnes en tout seront jugées, et surtout leur extrême diversité. Il y a des petits caïds de banlieue, il y a des gardiens d'immeubles corrompus, des mineurs, des jeunes filles qui sont censées jouer le rôle d'appât. Et on a l'impression que sous l'influence d'un leader complètement déséquilibré, qu'est Fofana, c'est monsieur et madame tout le monde qui sont soudainement devenus des monstres, complètement indifférents au sort d'Ilan Halimi. C'est ça qui est extrêmement choquant dans cette scène.
Oui, c'est d'autant plus choquant que quand on fait un film, on reconstitue la vie. Donc j'ai reconstitué tous ces moments-là et j'ai reconstitué la bande. Et cette bande, j'ai fait appel à des acteurs, évidemment. Et en les reconstituant, je me suis rendu compte d'une façon plus évidente que ce fameux slogan beurre blanc black a été complètement dévié, puisque nous avions affaire à des beurs blancs-blacks dans cette bande, alors que quelques années auparavant, nous étions une poignée, souvent, souvent des membres de notre communauté qui ont fondé SOS Racisme, et que cette appellation Bleu, Blanc, Black était vraiment un emblème de fraternité, d'espérance. Et ça s'est totalement retourné dans cette affaire. Et ça, c'est quelque chose qui est effarant, effarant de voir que ces jeunes Français, du même âge qu'Ilan, ont pu faire subir sans état d'âme, sans remords, parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est qu'aucun n'a émis le moindre remords, la moindre compassion, le moindre demande de pardon à la famille. Que ces gens-là se sont comportés de cette sorte, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable, et c'est ce que démontre le film.
Je voulais aussi préciser, vous l'aviez dit également Alexandre Arcadie, c'est que ce film n'est pas seulement un acte citoyen ou un film militant, il est destiné à un large public. Il y a une dramaturgie qui emporte le spectateur, il y a une identification très forte avec les personnages, notamment avec la mère d'Ilan qui est jouée par Zabou Breitman, qui est absolument incroyable. Et pourtant, on n'oublie jamais qu'il s'agit d'une histoire vraie. C'est ça qui rend aussi la tension aussi insoutenable.
Oui, c'est ce type de film où on s'identifie, on est proche, on est comme un membre de la famille. On en vient même à espérer qu'Ilan va pouvoir s'en sortir, parce qu'il y a des moments dans le film où il aurait pu s'en sortir. Et ça, c'est la force de la fiction, c'est la force de la reconstitution et la force des acteurs qui nous permettent d'être en immersion beaucoup plus que n'importe quel reportage. Ben Spielberg l'a bien compris en faisant Schindler List. Je me souviens que dans La Déchirure, quel est le documentaire qui était plus efficace que La Déchirure sur le drame cambodgien? C'est quand Costa Gavras nous faisait en son temps un film comme Z, on était au cœur de cette recherche de liberté. Ça, c'est la fiction qui permet cela. Et ça, c'est la force des acteurs, du scénario, de la reconstitution. Et en faisant ce film, j'avais conscience de cette responsabilité, parce que c'est une affaire, c'est quelque chose qui repose sur des faits réels, des personnages qui ont vraiment existé. Et il fallait être juste, il fallait être rigoureux, il fallait être sur une ligne qui est une ligne vraiment de tension totale, et pour permettre aux spectateurs à la fois d'être dans une sorte de fiction, parce que c'est une fiction, mais qui nous donne toujours à penser que c'est vrai, que c'est arrivé, et plus encore, que ça aurait pu nous arriver. C'est là où il y a une force d'exemplarité dans le film.
Vous dites avoir eu des difficultés particulièrement fortes pour produire ce film. C'est un sujet qui faisait peur aux financeurs habituels?
Écoutez, peut-être que qu'on n'y croyait pas, peut-être qu'on pensait que j'allais faire un film communautariste, un film de niche, alors que c'est un film pour tous les publics. Et à cela, je voudrais rajouter quelque chose aux auditeurs. C'est vrai que les auditeurs de RCJ sont évidemment les premiers concernés. Mais je voudrais demander quelque chose, parce que, et c'est là où le film trouvera sa vraie vocation. N'hésitez pas à inviter des gens qui ne souhaitent pas voir ce film. N'hésitez pas à le faire. Amenez-les avec vous. Ça vous permettra de parler. Parce que ce film-là permet de réfléchir. Et je le vois bien avec les jeunes, puisque nous faisons des actions avec l'éducation nationale. Je vois bien leur réaction. Ils sont effarés. Et ça raconte, ce film raconte mieux que quiconque cette dérive. Et eux-mêmes se disent, mais comment c'est possible? Et donc ce comment c'est possible, si on emmène des gens qui ne souhaitent pas aller voir ce film, ou qui n'y auraient pas été, en les faisant venir, je suis sûr que là, on fera avancer les choses dans notre pays.
On l'a dit, l'affaire Halimi a provoqué une prise de conscience sur l'antisémitisme en France en 2006. Pour vous, la sortie de ce film aujourd'hui en 2014, c'est une piqûre de rappel, c'est une manière de continuer le combat de Ruth Halimi qui disait « Je voudrais que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte ».
Malheureusement, les voyants sont au rouge de partout. Les quelques slogans encore qu'on a entendus il y a un mois à peine dans les rues de Paris ne nous amène pas à avoir de la sérénité, que ce soit en désignant ceux de droite ou de gauche, hein, parce que je pense aussi à cette extrême gauche qui est aussi nauséabonde que l'extrême droite, hein, quand certains de ses militants ont sorti Manu Militari, des membres de la communauté juive de Toulouse, dans une manifestation dans les rues de Toulouse, au moment où il y avait des graffitis antisémites dans cette rue. On a sorti la présidente du CRIF et le président de la communauté au prétexte qu'ils étaient des sionistes. Voilà l'amalgame. Sioniste égale ennemi, hein, que ce soit à gauche, à l'extrême, hein, et à droite, à l'extrême. Évidemment. Alors ce film-là sort aujourd'hui, on est dans une situation évidemment d'alerte, enfin, évidemment. Il y a 2 ans, c'était Toulouse et Montauban. Il y a quelques semaines encore à Paris, ces slogans, ces retranscriptions comme ça sur les murs de Toulouse. Donc c'est vrai que c'est un moment difficile, où il faut être vigilant. L'attitude du ministre de l'Intérieur face à cet humoriste a été exemplaire, parce qu'il fallait désigner les choses, il fallait les montrer du doigt et dire les choses clairement. Mais ce qui me donne peu d'espoir, c'est quand même une expérience autour du film il y a quelques jours. Nous étions à l'invitation du maire de Bagneux. Nous avons organisé une projection à Bagneux. À 300 mètres de l'endroit de la cité où Ilan a été séquestré pendant 24 jours. 300 mètres, c'est juste à côté. Hein. Nous avions une salle de plaine, presque plus de 500 personnes, toutes confessions confondues, toutes races confondues, toute origine confondue, tout âge confondu. Et le film, on l'a présenté là-bas, on l'a projeté, et à l'issue de la projection, la salle s'est levée pendant presque 15 minutes à applaudir. 15 minutes, c'est beaucoup, hein. Ça ne m'est jamais arrivé. Et après, il y a eu une discussion entre nous sur ce film, sur l'importance de ce 24 jours. Et franchement, au sortir de cette rencontre, j'étais plus optimiste sur l'avenir de la France.
Je vous remercie beaucoup, Alexandre Arcadi, d'être venu. Je rappelle que votre film, 24 jours, La vérité sur l'affaire Halimi, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sortira sur les écrans le 30 avril prochain. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.